J'ai choisi pour ce dimanche, donc de rentrée de notre Église, un texte de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, où Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Alors c'est Matthieu 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 23. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis ? Alors Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens et des sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre alors le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et puis je voudrais vous lire aussi un petit passage au début de la première lettre de Jean. Voilà l'introduction à cette lettre. Il nous dit comment il fonctionne finalement. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains et l'ont touché concernant la parole de vie. Et la parole de vie a été manifestée. Oui, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin qu'à votre tour, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que votre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter dans notre petit recueil Louange et prière, joliment relié si vous avez la chance d'être tombé sur le bon cantique par notre équipe donc de relieuses. Le cantique 214, sur ton Église universelle, les trois strophes de ce cantique 214. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous apporter aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages anciens que nous avons entendus, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Alors tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit. C'est notre espérance afin qu'à l'occasion de ce culte, de cette méditation, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un cœur de chair pour aimer. « Je bâtirai mon Église », nous dit Jésus. Ah oui, et à quoi ça va servir en fait? À quoi pourrait-elle aider cette Église? Et puis quelle est cette pierre de fondation dont parle Jésus pour son Église? Au début du récit, on pourrait penser que c'est la personne de Simon-Pierre, mais le récit de l'Évangile se poursuit. Et Simon, qui vient d'être si génial par sa confession de foi, se révèle quelques minutes plus tard exactement dans la pire attitude possible. Et il se fait sacrément gronder par Jésus qui lui dit qu'il est satanique, c'est-à-dire qu'il déconstruit, qu'il éparpille plus qu'il ne construit. Et pourtant, si Jésus donne à Simon le nom de Pierre, qui est à peu près finalement, qui se rapproche du mot pierre qui est utilisé pour la fondation de son Église, c'est bien qu'il y a quelque chose là, dans ce qu'il fait ou dans ce qui lui arrive, qui est fondamental dans le projet du Christ, dans son espérance pour l'humanité et le service qu'il veut rendre, à travers nous aussi. Alors quoi? Il serait possible de penser que la pierre de la fondation de l'Église, dont parle ici Jésus, c'est la confession de foi de Pierre, cette connaissance sur Jésus comme étant le Christ et le Fils de Dieu. Mais si c'était si essentiel que cela pour Jésus, ce savoir, il lui suffirait de le révéler explicitement, de le dire « vous allez me l'apprendre par cœur, me le recopier 50 fois », alors qu'ici, il interdit finalement aux disciples de répéter partout cette connaissance que vient d'apporter Pierre. Et pourtant, ce que Jésus propose ici n'est pas... C'est un travail, si vous voulez, quand même sur la connaissance et sur la réflexion. Cela part même de là, d'une réflexion, que nous propose Jésus un travail d'enquête au dire des hommes « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Alors ensuite, le cœur du récit qui est relevé par Jésus, ce n'est pas tant ce travail intellectuel, mais ce que relève Jésus avec éclat, c'est l'expérience de foi de Simon-Pierre qui est, nous dit-il, une révélation directe de Dieu, de son Père qui est dans les cieux. Alors qu'est-ce que l'Église aurait à voir avec cela? Elle ne peut pas faire automatiquement partager à quiconque une expérience de foi, un cœur à cœur avec Dieu, une expérience mystique bien sûr. Mais alors elle peut quand même peut-être préparer les chemins du Seigneur, comme on le dit pour Jean-Baptiste par exemple, ou aider à rendre possible cette expérience de foi de chacun. Dans cet itinéraire de Simon vers son instant de révélation divine, finalement, tout commence par cette enquête que propose Jésus à ses disciples au dire des hommes, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ? Cela conduit à rechercher, pour les disciples, un certain panel de réponses posées par des individus ou par des groupes. Et en fait, la Bible est faite de cela. C'est un recueil d'interprétations sur l'intervention de Dieu dans l'histoire. Et vous, ajoute ensuite Jésus, qui dites-vous que je suis ? Et donc après le recensement des interprétations diverses possibles de l'action de Dieu, il nous appelle à aller plus loin en interprétant ces interprétations et puis en prenant position, ce qui en fait n'est possible que dans un engagement personnel, bien sûr. Alors ce travail-là sur les interprétations est un premier service que peut rendre l'Église du Christ. Une première pierre de fondation, finalement, d'initier cette démarche. Même si ce n'est pas encore le cœur de la foi, qui est donc une révélation directe de Dieu le Père, du Père de Jésus-Christ directement en nous, c'est seulement un travail sur ce que nous révèlent des personnes, des chairs et de sang, mais c'est déjà la foi, finalement, que de faire cette enquête, c'est déjà une première pierre à la fondation, c'est déjà dans cette recherche que se creuse une recherche de Dieu, une curiosité, une gourmandise même, en tout cas une espérance, quelque chose comme une conversion, un changement, un approfondissement, un idéal. Et cela, c'est déjà un fort bon point. Mais cette recherche, elle apporte plus qu'une ouverture, je pense. Elle travaille sur cette magnifique collection d'interprétations de l'action de Dieu qu'est la Bible, à la lumière de ce qu'apporte le Christ. C'est ce que Jésus appelle à faire ici, et l'Église c'est cela aussi, voilà, ce travail sur cette magnifique collection. Alors pourquoi la Bible ? Ces histoires anciennes se passent à des époques différentes, dans des circonstances particulières, et nous ne sommes pas Jean-Baptiste, nous ne sommes pas Jérémie, nous ne sommes pas Abraham, nous ne sommes pas Simon-Pierre. L'action de Dieu est toujours conjoncturelle. Une réponse totalement individualisée, novatrice, particulière. Mais, effectivement, comme le dit Jésus, Dieu n'est pas un simple héros dont on raconterait la geste, mais il est le Père qui est dans les cieux. Autrement dit, il est une source qui est d'une toute autre dimension que la nôtre. Ce qu'il révèle ou accomplit n'est pas facile à raconter dans notre langage parce qu'il faudrait des mots du ciel alors que nous n'avons que des mots de la terre, de la chair et du sang de notre univers. Par conséquent, tout témoignage sur ce que Dieu aurait dit ou fait, c'est toujours de l'ordre de l'interprétation. Une interprétation personnelle et non une transcription et une vidéo. Alors qu'allons-nous faire donc de ces événements très conjoncturels qui ont été transcrits dans une langue qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la question, effectivement, et je pense que cela apporte immensément. La Bible, c'est une compilation précieuse de ces interprétations particulièrement marquantes. Ce que ce soit une compilation, on le voit bien finalement. Par exemple, dans la Genèse qui commence par deux, voire trois interprétations, trois récits différents de l'acte de création de Dieu dans l'histoire et dans le monde et en nous. Et puis c'est comme ça que Jean présente son travail, on l'a entendu, dans sa première lettre, comme une interprétation de son expérience ou de leurs expériences de foi à lui, et à quelques-uns peut-être de son groupe de travail. Ce qui était dès le commencement, nous dit Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Jean rend bien compte de la difficulté et donc du statut de son texte quand il explique témoigner de ce qu'ont contemplé ses yeux et touché ses mains de la parole de vie. Comment peut-on toucher une parole? Comment peut-on parler de ce que ressent la main, finalement, quand elle touche quelque chose? L'auteur doit interpréter l'indicible, quelque chose qui est de l'ordre du ciel, avec des mots de la terre, du sang et de la chair. Eh bien, l'Église est riche de cette formidable compilation d'interprétations de l'action de Dieu dans la vie d'hommes et de femmes. Et donc par la Bible d'abord, mais aussi par 2 et 3 000 ans d'interprétation de ces interprétations, nous nous ouvrons fondamentalement, le culte ce n'est que ça finalement, nous nous ouvrons à fouiller dans cette bibliothèque et peut-être à retrouver un de ces petits feuillets touchants qui sont parfois dans ces vieilles bibles de famille. Une prière qui a été recopiée, une vieille feuille de culte, un article ou bien une lettre d'anniversaire écrite par un frère à sa sœur lui disant la bénédiction de Dieu. Mais à quoi cela peut-il donc nous servir de ruminer ces interprétations, ces petites lettres qui jonchent notre Bible ? Interprétation de l'action de Dieu dans des vies humaines particulières. Eh bien, cela sert à ouvrir notre champ du possible de l'interprète de l'action de Dieu dans notre vie. En effet, il est très difficile de saisir ce qu'on ne connaît pas, ce que l'on n'imagine même pas. Comme Samuel, par exemple, dans la Bible dont nous venons de chanter le cantique, il ne comprend pas ce qui lui arrive quand Dieu lui parle. Il se lève et il va voir Élie. Mais finalement, Élie l'aide à saisir qu'il ne s'agit pas d'une parole de chair et de sang, mais que c'est l'Éternel qui lui parle. Et ce n'est pas facile, effectivement, à saisir qu'il y a là quelque chose de spécial. La personne athée ayant été élevée dans un milieu entièrement athée, peut-être pas matérialiste, mais humaniste, par exemple, n'en a que plus de mérite à saisir, puis à accepter ce qui lui arrive venant de Dieu. Alors si cette rencontre est particulièrement vive, un peu à la Blaise Pascal, au début la personne se demande ce qui lui arrive et elle peut se croire folle, et puis non, ça passe, et cette expérience devient pour cette personne comme une pierre de fondation. Si cette rencontre avec Dieu pour la personne athée est plus diffuse, l'athée se dit que non, tout ça n'existe pas, et donc ce quelque chose qui le titille n'est pas important, qu'il se fait un film. Sauf quand cela vient et revient, quand cela dure des dizaines d'années. Alors oui, creuser la Bible, interpréter ce trésor d'interprétation sur l'action de Dieu dans la vie humaine, nous rend plus disponibles pour voir ce qui pourrait nous arriver de Dieu. À ne pas laisser encore une fois passer notre chance, même si elle va repasser, Dieu ne se lasse jamais. Mais à la saisir enfin, ou à la saisir mieux, ou à l'assimiler un peu plus profondément. C'est ainsi que Moïse, que Zacharie ou que Marie, dont nous avons les récits dans la Bible, parlent ensuite de leur rencontre avec Dieu, mais en interprétant finalement avec un tissu de citations bibliques. Cela veut dire que pour eux, ces citations bibliques ont été importantes dans leur cheminement. Auraient-ils pu s'ouvrir à cette visite de Dieu sans cette préparation qu'il y a eu dans la méditation de ces événements anciens, pour ouvrir ensuite leur propre être à l'inattendu? Peut-être oui, mais plus difficilement. Et puis ces textes leur donnent aussi un vocabulaire et une syntaxe pour arriver à interpréter eux-mêmes ce qui leur arrive et peut-être arriver à le transcrire pour en parler à d'autres, en discuter avec d'autres et interagir avec ce que d'autres ont pu recevoir ou expérimenter. Alors en fait, derrière chaque récit biblique, il y a une expérience spirituelle d'un croyant qui est derrière les mots, qui est derrière le récit. Alors Abraham n'a peut-être pas existé en tant que personnage historique, ce n'est pas un secret pour grand monde. Mais en tout cas, derrière ce récit, il y a un auteur qui dit son expérience de Dieu avec ce texte. Son expérience à cet auteur était subjective, elle est particulière, comme les celles de Pierre, comme les celles de Samuel. Bien sûr, toutes ces interprétations de ce qui leur arrive, elles ouvrent quand même notre schéma du possible avec Dieu. Alors cette histoire de Pierre, c'est son histoire, il n'y a donc pas à culpabiliser s'il ne nous arrive pas la même chose, s'il n'arrive pas la même chose qu'à Abraham, qu'à Jérémie, qu'à Moïse ou à je ne sais qui. À la fois ça ouvre notre possible, mais ça ne nous l'impose pas. Pas plus que l'histoire de David qui est désigné par exemple par Dieu au prophète Samuel, pour qu'il fasse de lui le prochain roi, de préférence à tous ses frères qui semblaient plus excellents que lui. Alors nous ne sommes pas David, nous n'avons pas à être roi, mais Pourquoi c'était ce David? Parce que c'était lui, parce que c'était ce moment-là. Mais nous-mêmes, nous sommes nous et nous sommes à un moment de notre existence. Et donc c'est possible que nous vivions quelque chose de cet ordre-là, à notre façon d'être désignés, d'être fortifiés par Dieu pour une responsabilité particulière, sans doute à notre façon. Et donc après avoir intégré ces histoires, médité ces histoires, comme Jésus invite Pierre à le faire, eh bien ces histoires, elles sont là dans un coin de notre mémoire, prêtes pour revenir et nous aider à interpréter ce qui nous arrive. Peut-être que nous avons vu et touché de la main quelque chose qui est de l'ordre d'une parole de Dieu, comme le dit Jean, d'une façon imagée, mais peut-être pas. C'est toute la difficulté, car tout ne vient pas de Dieu. Parfois, c'est juste notre tête ou nos sentiments qui se font un film. Et donc, c'est à cela que sert aussi ce travail d'interprétation. Interprétation de notre existence, interprétation de ce qui nous vient, ce qui s'élève à notre conscience. Car comme avec Pierre, avec la deuxième partie de ce récit, il peut arriver que nous ayons besoin des autres pour nous dire quand nous délirons finalement. Que ça ne vient pas de Dieu, que ça vient des hommes, que ça vient de nous. Comme le dit Jean, il existe des paroles de Dieu qui se voient et qui se touchent, des signes de l'action de Dieu dans le monde. Oui, Dieu pose des signes. Christ est un signe formidable. Mais il y a aussi des petits signes pour qui sait les voir. Ce sont nos petits buissons ardents, finalement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à surinterpréter notre quotidien, étant dopé ainsi par ces récits bibliques et puis par ces prédications qui ne cessent de les ruminer? Comment gérer ce possible, jamais certain, d'un signe, d'une parole de Dieu? Comment s'ouvrir à la révélation de Dieu sans s'éparpiller dans le n'importe quoi, dans nos rêves et nos fantasmes? Alors cela doit être fait dans l'humilité, parfois avec humour, parfois dans le dialogue avec les autres. Et c'est comme cela que ça peut rester intéressant, peut-être même fondateur, fondamental, sans devenir aliénant. Anecdote de cette semaine. Nous étions en début avec quelques-uns, avec André, avec Isabelle, avec d'autres. On se disait, mais comment on va faire ce dimanche prochain pour qu'il y ait quelqu'un à la garderie? On était en panne. Dans les 10 minutes, je reçois un SMS d'une lycéenne qui me répond qu'elle viendra avec joie au repas de lycéens de samedi prochain. Petite annonce, il y a un repas des lycéens dimanche samedi prochain, 24. Elle répond, je viendrai avec joie, mais qu'est-ce que c'est que la garderie? Alors on peut y voir, si vous voulez, une intervention de Dieu pile poil au bon moment, quand nous étions en souci. Mais peut-être que c'est de la surinterprétation, comme d'y lire une intervention de Dieu alors que c'est juste un hasard ou qu'elle a entendu parler par quelqu'un d'autre, que sais-je. Alors si cette interprétation comme un geste de Dieu était prise trop au sérieux, elle pourrait être aliénante sous le poids d'une théologie de Dieu qui serait tout-puissant, maître de l'histoire jusque dans ses moindres détails. Mais alors que ferait-il quand il y a des pauvres qui sont en train de mourir de faim? Mais si c'est fait avec humilité, si c'est fait avec humour, pourquoi pas? Comme une façon de regarder notre vie avec une perspective spirituelle et que tout ce qui arrive contient un potentiel de sens et qu'effectivement Dieu intervient réellement dans nos vies. Et puis se préparer réellement à ce qui vient de Dieu. Car si Dieu n'envoie pas de message sur notre téléphone, il est quand même une source qui se révèle dans la parole, à l'intérieur de notre être. Il est une personne qui nous visite, en fait. Et là, on rigole autrement. Et Pierre n'est pas en train de rigoler quand il entend cette parole « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela, pas la chair et le sang. » Oui, ça nous arrive aussi, c'est fait pour nous arriver. Alors, Simon aurait-il pu décrypter le signe qu'est Jésus s'il n'avait pas médité l'histoire de Jean-Baptiste, de Jérémie et d'Élie qui sont importants pour lui? Et puis leur interprétation par ses collègues, peut-être pas, mais là, il a été touché par Dieu. Alors Dieu, il ne parle pas qu'avec des sons, bien sûr, Jean a raison. C'est plus une vision comme avec des yeux ou une perception comme avec les mains. Et donc ensuite, il faut transcrire cela, transcrire dans des concepts comme le fait Pierre, dans les concepts de son époque, de sa culture, avec les mots qu'il utilise. Alors c'est bien ce qu'il faut faire, et c'est ce que Jésus lui demande. Et c'est peut-être un autre service que peut rendre l'Église, de nous essayer de travailler sur nos intuitions spirituelles, de faire peut-être le tri, de nous permettre de nous rendre compte quand nous nous faisons des films finalement, mais en même temps de travailler en vérité avec ce qui vient de Dieu. Et souvent une prédication ou un texte nous rejoignent étrangement et nous font comprendre la révélation reçue. Et donc ce n'est pas tant la parole extérieure du prédicateur qu'est la prédication qu'il donne. Cette parole ne serait qu'un exercice intellectuel sans cette parole intérieure que reçoit chacun. La parole de vie dont parle l'apôtre Jean, parole qui vient du Père de Jésus-Christ directement à l'intérieur de soi-même, mais que simplement la parole externe aide à interpréter, à discerner peut-être. Alors dans le travail spirituel, qu'est-ce qu'on peut recevoir finalement directement de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes? Alors on peut prendre conscience de ce qui serait juste de faire pour nous à ce moment précis. Peut-être de s'engager à la garderie, que sais-je. Alors c'est un peu comme le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï, comme Pierre reçoit ici une mission, mais c'est toujours conjoncturel, adapté à chaque personne, bien sûr. On peut aussi entendre de Dieu nous dire, comme Pierre va l'entendre, « Tu es heureux d'être toi, heureux d'être toi. » Comme Jésus reçoit la révélation qu'il est l'enfant bien-aimé de Dieu à son baptême ou sur la montagne de la Transfiguration. Comme Marie reçoit la grâce, comme Abraham reçoit la bénédiction pour qu'il soit bénédiction pour d'autres. Et donc, ce deuxième type de parole venant de Dieu, c'est la bénédiction, c'est l'évangile. On peut aussi progresser dans la connaissance de soi-même dans cette rencontre avec Dieu, comme Simon va recevoir un nouveau nom de la part de Jésus. Il n'est plus seulement le produit de son histoire humaine, Simon, fils de Jonas, mais il devient Pierre. Mais enfin, dans l'expérience spirituelle, même en dehors de toute parole de vie reçue ou ressentie, il y a la relation pure. Et elle a son importance essentielle, je pense, même en dehors de tout contenu formalisable. C'est ici, dans cette histoire de Pierre, tous ces petits mots qui reviennent dans ce dialogue, c'est tu et c'est toi, c'est moi, c'est je, de la rencontre personnelle entre Dieu et nous. Et je crois que c'est le but de l'Église de libérer chacun pour cela, pour cette simple rencontre et pour ces paroles que nous pouvons recevoir. Alors bien entendu, ce travail de l'Église n'est qu'un travail sur terre et nous ne sommes pas Dieu, pas tout à fait. Mais comme le dit Jésus, il y a moyen ici soit de bloquer les gens, soit de les libérer pour qu'ils se sentent autorisés. Autorisés, dignes, appelés à voir même leur petit buisson ardent et à entendre directement de Dieu une parole. Entendre, voir et même toucher de la main la parole de vie, une parole de vie. Alors nous avons ce pouvoir en tant qu'hommes et femmes de libérer ou de bloquer les autres. Et bien entendu, Jésus n'imagine pas une seconde que nous pourrions comprendre avoir le droit de bloquer les autres, bien entendu, dans ce cheminement. Dans la première des 10 paroles données à Moïse, Dieu se révèle comme libérateur et il espère nous créer à son image, donc que nous libérions les autres pour cette rencontre personnelle avec Dieu. Alors ensuite, le danger du croyant élevé au septième ciel par Dieu, c'est de se prendre un peu pour Dieu sur les bords et de faire de notre interprétation de la parole un savoir sur Dieu, d'en faire une vérité éternelle prétendant connaître Dieu mieux que lui-même, même démontant Dieu avec différents éléments, différentes pièces qui le constitueraient. Alors c'est ce qui arrive à Pierre ici, et cette suite du récit est utile bien sûr. Elle est utile pour nous tous. Et là aussi, l'Église peut nous aider si elle-même ne se prend pas pour le royaume de Dieu, mais simplement une rencontre entre croyants dans une belle diversité de croyants sincères et qui pourtant ont des foi différentes. Cela enrichit notre panel d'interprétation et en même temps, cela peut nous aider à ne pas confondre nos paroles humaines de chair et de sang pour la parole vivante de Dieu. Et cela libère sacrément. Amen.